marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
La marche de l'histoire, dites-moi quel est le programme aujourd'hui.
Est-ce que je vous ai dit hier que nous allions à Strasbourg?
Oui, je crois.
Je le redis.
Tout petit peu, vous avez pris une minute 22 au moins.
Ainsi que Charles Lynne, sa bande, François-Régis Gaudry, plusieurs émissions publiques, c'est le festival Historia. Nous serons au parc, au Palais des Congrès, pas au Parc des Expositions, Palais des Congrès, je l'ai bien dit, Auditorium Schweitzer. Alors, est-ce que je vous ai dit le sujet d'aujourd'hui?
Non, ça vous ne me l'avez pas encore dit, mais ça va venir.
L'invité, vous la reconnaissez, Annette Becker, que vous avez lu souvent?
Oui, absolument.
Tragédie de la Première Guerre, catastrophe absolument. De la Seconde Guerre, et maintenant, vous allez voir.
Les archives sont la mémoire, elles sont aussi le grenier de l'histoire.
Raphaël Lemkin, la définition et la punition du génocide.
Qu'est-ce que c'est que le crime de génocide? Qu'est-ce que signifie ce mot étrange? Quelle est la signification de cette nouvelle loi internationale? En deux mots, la voici. L'existence de ces groupements humains qui, tout au long de l'histoire, ont été persécutés, soit par le gouvernement, soit par tout autre groupe humain, aveuglé par la haine et l'intolérance, fait l'objet maintenant d'une garantie internationale et une protection légale est assurée à tous ceux qui, jusqu'ici, dans la détresse et le danger, imploraient une aide qui jamais ne venait.
Et qui est cet homme qu'on vient d'entendre, sans lequel le concept de génocide n'aurait pas vu le jour? À la fin de sa vie, dans les années 1950, rencontrant dans un parc un groupe de jeunes filles en fleurs, il se serait ainsi adressé à elles. Savez-vous que je sais dire « je t'aime » dans un nombre incalculable de langues? Et son histoire, en effet, c'est celle d'un polyglotte. Il naît au nord-est de Varsovie, dans ce qui était encore l'Empire russe. Il devient un juriste réputé de la République de Pologne, indépendante. L'invasion de 1939 le contraint à fuir en Suède. Et voilà qu'il va enseigner en suédois. Et ensuite, il arrive aux États-Unis. Il est professeur d'université. Quant au français, on vient de l'entendre, eh ben il le parle assez bien. On ne s'étonnera pas si le mot qu'il forge pour incriminer les violences de masse systématisées juxtapose le grec et le latin. Génocide de génos et occidéré. Mais l'histoire de Lemkin, c'est d'abord celle d'un enfant élevé en yiddish, dont la famille était certes accoutumée au pogrom, mais qui ne parvenait pas à croire qu'elle pouvait être entièrement anéantie. Son travail est commandé par un changement permanent d'échelle. D'un côté, les interrogations sur son frère, sa belle-sœur, ses amis, et de l'autre, l'interrogation du crime absolu. On ne peut saisir l'inédit sans le mettre en rapport avec la poche de réalité dont on est déjà familier. En accumulant sa documentation sur le régime nazi, Lemkin cherchait sans doute un soulagement à son chagrin personnel, mais son but en inventant ce mot nouveau, génocide, c'était de raisonner, on l'a entendu, en termes de groupements humains, nationaux, religieux, voire politiques, et de les placer sous la protection d'un droit international renouvelé.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
Annette Becker, bonjour.
Alors, bonjour.
Dans le droit fil de vos travaux, premier livre il y a 30 ans, Offrir un monument aux morts de la Grande Guerre, les tragédies de la Grande Guerre, les catastrophes de la Seconde Guerre, ces messagers du désastre dont l'un des deux héros est Raphaël Lemkin dont on va parler. C'est un livre chez Fayard, vous y dites souvent, c'est un homme qui n'est connu que des cercles des juristes.
Pas seulement, mais principalement des cercles des juristes. C'est-à-dire que le mot génocide est devenu malheureusement si familier à nos oreilles qu'on ne s'interroge pas vraiment sur sa naissance et sur le fait qu'à un certain moment, il y a eu un concepteur et que ce concepteur s'appelait Raphaël Lemkin.
Soit un gamin né en 1900 à Volkovics.
Volkovics, c'est un petit village à Stettel, juif, en Galicie.
Il devient étudiant en droit, il est étudiant en droit à Lvov. Enfin,
oui.
Je dis Lvov comme on dit en ukrainien.
C'était
aujourd'hui.
La grande ville galicienne, ukrainienne aujourd'hui, où il y avait une très bonne université et qui a formé énormément d'ailleurs de juristes.
Une affaire survient quand il a 21 ans. Cette affaire a lieu à Berlin. Un jeune étudiant arménien, Terilian, a assassiné en pleine rue un notable turc en exil qui se trouvait là, Talat Pacha, qui est un des responsables de ce qu'on nommait encore à l'époque le grand massacre des Arméniens. Il est arrêté après avoir été molesté par la foule et commence son procès.
La séance s'ouvre avec l'audition de l'accusé. Terilian s'adresse au président. Il raconte comment, sur les ordres de l'ex-premier ministre turc Talat Pacha, il fut déporté avec toute sa famille 6 ans plus tôt. Comment il a assisté au massacre de sa mère, de ses sœurs, et comment, laissé pour mort, il s'est retrouvé au milieu des cadavres des siens. Il conclut sa déposition en déclarant « Je ne me crois pas coupable car ma conscience est tranquille. » Le président « Pourquoi votre conscience est-elle tranquille ?» Terilian répond « J'ai tué un homme, mais je ne suis pas un meurtrier. » Un coup de théâtre se produit au procès lorsque l'un des avocats de Terilian vient apporter la preuve au tribunal que Talat Pacha est bien le responsable des massacres. Il présente un télégramme chiffré adressé par Talat Pacha, alors ministre de l'Intérieur, au préfet d'Alep. Les termes en sont clairs. Sans égard pour les femmes, les enfants et les infirmes, aussi tragiques que puissent être les moyens de l'extermination, sans écouter les sentiments de la conscience, il faut mettre fin à leur existence. Lorsque l'avocat de Terilian présente le télégramme de l'ex-premier ministre turc, le procureur s'insurge. Il refuse que soit vérifiée son authenticité ou même que la pièce soit portée au dossier. En effet, les jurés n'ont pas à se prononcer sur la culpabilité de Talat Pacha, mais sur celle de son meurtrier.
Alors c'est une affaire qui bouleverse le jeune Lemkin qui interpelle ses professeurs.
C'est une nouvelle qui bouleverse beaucoup de gens en Europe, mais qui ne voit pas, comme Lemkin, les conséquences très, très importantes. Pour lui, il y a quelque chose qui est insupportable. Terilian a perdu toute sa famille et il a assassiné une personne. Talat Pacha est un des responsables, c'est ce qu'on pensait à l'époque. On sait de plus en plus qu'il est le responsable principal de l'extermination des Arméniens. Il y a donc sur la conscience des millions de victimes.
Mais est-ce qu'il peut être considéré comme un criminel? Certains en doutent même, s'il va être acquitté. Alors, à la fin du procès, parce que tout est polarisé sur le crime de l'étudiant.
Oui, Terilian sera forcément acquitté, mais il ne va pas être acquitté sur le fait qu'il n'est pas un assassin, parce qu'il a fait un crime. Il va être acquitté, on considère qu'il n'a pas toute sa raison. C'est la façon dont la justice allemande trouve une parade. Mais il n'y a pas de parade juridique. Et c'est là que Lemkin dit, il faut arriver à juger les criminels de tout un peuple. C'est le déclic de toute sa vie.
Alors un peu plus tard, il devient procureur de la République à Varsovie, et c'est une époque où le droit international a été renouvelé. On l'oublie un peu, ce moment, parce que ce renouvellement se faisait à l'ombre de la Société des Nations, qui va disparaître ensuite, et à laquelle s'intéresse beaucoup le jeune procureur Lemkin.
Le jeune procureur est ambitieux. Et il a la chance de voir une session du juridisme pénal à Varsovie. Et il va pouvoir s'y placer. Et il est très brillant. Et les autres juristes de la SDN, immédiatement, vont le prendre parmi eux. Et ils réfléchissent dans des réflexions qui avaient commencé avant la Première Guerre mondiale. Le droit des gens, le terrorisme. Et ça va passionner Lemkin jusqu'en 1933, où il va apporter quelque chose de nouveau.
Alors quoi ?
Alors, ce qu'il va apporter de nouveau, c'est qu'il y a des crimes contre des peuples entiers. C'est quelque chose de collectif. Et il part évidemment de son expérience des Arméniens et aussi des pogroms très nombreux contre les Juifs de Russie qu'il a connus dans son enfance. Et il dit qu'il y a deux sortes de crimes. Et c'est là qu'il est très novateur. Il y a le crime qu'il appelle de barbarie, qui est de torturer et de tuer. et il y ajoute le crime de vandalisme qui est de s'en prendre à la culture, aux églises, aux synagogues, aux bibliothèques, aux manuscrits. Et en cela, il est très innovateur. Et on est en 1933 seulement.
Oui, mais ensuite la République de Pologne change sensiblement de régime. Au nom de la législation antisémite, il se voit retirer ses fonctions. Il devient un juriste indépendant qui réussit bien. Vous avez dit qu'il était ambitieux. Il a un bel appartement, il s'achète une maison de campagne, il achète une maison à son frère et à sa belle-sœur aussi.
Tout à fait. On voit une réussite possible pour un juif polonais, mais pas dans les cercles officiels. Puisqu'on lui interdit de se rendre à Madrid, où le texte sur la barbarie et le vandalisme sera lu par quelqu'un d'autre. Donc il peut, de façon privée, réussir, mais plus au service de la Pologne.
Mais de toute façon, à l'automne 39...
La tragédie polonaise est devenue chaque jour plus angoissante depuis le début de la guerre. Nous voyons ici les Allemands, malgré les affirmations pacifiques d'Hitler, violant les frontières polonaises. Inlassablement, le flot envahisseur va déferler sur la courageuse Pologne. Tout est mis en œuvre par l'Allemagne pour la conquête rapide des territoires qu'elle a convoités et la destruction de l'armée polonaise.
La Pologne est vaincue, sa zone occidentale est occupée par les nazis. Et puis en vertu du pacte germano-soviétique qu'ils avaient signé avec Staline, l'URSS va mettre la main sur l'est du pays, vers lequel va se diriger Lemkin. Entre deux mots, il faut choisir le moindre. Et vous racontez, Annette Becker, dans Les Messagers du désastre, le parcours qui le mène chez son frère et sa belle-sœur dans la maison achetée, un peu plus au nord, à Doudno, une ville où il fait station.
Oui, c'est un périple très, très passionnant parce qu'on voit le contraste entre Lemkin qui a une sorte de prémonition du désastre à venir. Il a déjà compris. Et il rencontre des gens qui, pour différentes raisons, pensent que ce n'est pas possible de quitter le pays, ce qu'il veut faire. Et il a parfaitement raison, parce que de tous ceux qu'il rencontre, de toute sa famille, des juifs extrêmement religieux qui considèrent qu'ils sont dans les mains de Dieu et qu'ils ne vont pas se déplacer maintenant, que ce n'est pas possible.
À Doudno, un boulanger,
c'est une scène extraordinaire, parce que le jeune juif qui n'est plus du tout pratiquant assiste à un Shabbat, et ce Shabbat est tellement pur, tellement plein de foi, qu'il est saisi, mais il leur dit: mais vous ne pourrez plus faire cela avec les nazis.
Mais et nous sommes disent, un peuple éternel, voilà, répondent-ils.
C'est exactement ce qu'ils répondent. Mais le peuple éternel va être assassiné dans les mois qui viennent.
Il passe en Lettonie, menacé par l'ombre soviétique, où il rencontre un historien, Dubnov. Il y a encore une tasse de thé possible, offerte devant le feu de cheminée.
Dubnov est encore en vie pour un an. C'est un très grand historien du peuple juif. Il avait publié son histoire du peuple juif quelques années auparavant. Et Lemkin dit, mais est-ce que c'est la réalité? Que Dubnov lui aurait dit, en effet, votre idée est très bonne. Il faut qu'on puisse protéger les peuples tout entiers. Et donc, il faut punir les assassins de peuples.
Après une cérémonie religieuse, le premier conseil de la Pologne s'est tenu à Paris, en présence du président Rakiewicz et de l'illustre pianiste Paderewski, dont l'ardent patriotisme s'est exprimé en des termes émouvants. « Je ne suis plus un homme », a-t-il dit, « je suis l'incarnation du désespoir. J'ai une grande cause à défendre. Je la défendrai jusqu'à l'extinction de mes dernières forces. »
La fuite fugitive et capricieuse des valses, la force rythmique et la noblesse des polonaises, la puissance tragique et humaine des ballades, le mystérieux rubato des mazurkas, tout cela, dans la mémoire de l'humanité civilisée, porte deux noms soudés l'un à l'autre, Chopin et Paderewski. Écoutez cette mazurka en do dièse mineur, pleine de charme mélancolique. Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous sommes en 1940 en compagnie d'Annette Becker qui publie chez Fayard Messager du désastre, un livre notamment consacré à Raphaël Lemkin, qu'on a laissé dans les pays baltes qui vont être occupés en 1940 par l'Union soviétique. La seule issue possible, c'est la Suède, où il arrive et où il attend longuement un éventuel visa pour les États-Unis. Mais cet homme, au pas duquel vous vous êtes attaché, c'est pas un résigné. Enfin, il va pas s'installer dans
pas
la condition
c'est
de réfugié.
C'est vraiment depuis le début de sa vie d'intellectuel, c'est quelqu'un qui travaille sans arrêt, qui lit sans arrêt, et il pense qu'il a un travail à faire. Et son travail, c'est de comprendre comment les nazis s'en prennent à l'Europe occupée. Et en Suède, il passe sa journée dans les bibliothèques et il accumule toutes les informations possibles. Il avait déjà commencé d'ailleurs dans les pays baltes. Au fur et à mesure qu'il se déplace, il travaille dans les bibliothèques. Et c'est d'ailleurs passionnant de voir les informations qui étaient à sa disposition, si on voulait bien les chercher, en 1939, en 1940. Puis ensuite, quand il arrivera après un périple incroyable à travers l'Union soviétique et le Japon, comment on a une documentation aux États-Unis aussi.
Alors, il part avec des malles de papier quand enfin lui est donné un visa pour les États-Unis, mais il faut en effet passer par l'URSS d'abord, et le Japon n'est pas encore en guerre, par le Japon pour accéder aux États-Unis.
Exactement.
Il n'a pas beaucoup de sympathie pour l'URSS d'ailleurs.
Aucune sympathie pour l'URSS, il n'en aura jamais. Mais en revanche, il comprend bien que les Juifs polonais de l'Est, ceux qui sont pour le moment occupés par les Soviétiques, risquent moins que les autres. Mais ça ne va pas durer, et en 1941, c'est la catastrophe pour tout le monde.
Et lui, il est arrivé aux États-Unis, où il agite les milieux universitaires qu'il rejoint, ses étudiants, où il donne des conférences pour essayer d'expliquer ce qui, selon lui, se passe presque immanquablement. Il ne sait pas ce que sont devenus son frère, sa sœur, les membres de sa famille, il le devine.
Oui, quand il arrive au printemps 41 aux États-Unis, la guerre n'est pas déclarée entre les États-Unis, entre les nazis et l'Union soviétique, mais ça ne va pas durer. Et immédiatement, ce sont les énormes de massacres des Einsatzgruppen et des autres, et l'essentiel de sa famille est massacré, sauf son frère qui a pu passer en Union soviétique. Mais il va perdre évidemment tout contact et il ne sait rien. Mais ce qu'il sait, c'est que un massacre se passe et qu'il a dans la tête ce crime de barbarie et ce crime de vandalisme qu'il a déjà pensé. Et donc, il se met au travail. Il travaille énormément, il travaille même tellement qu'il va être recruté à Washington à la fin de l'année 41, donc au moment où les États-Unis rentrent en guerre à leur tour, pour donner des informations sur l'Europe occupée.
Votre livre croise le destin de Lemkin et puis celui de Jan Karski, qu'on va juste entendre un instant dans un extrait du film de Lanzmann, Dossier Karski. Alors, Karski, c'est un catholique polonais fervent qui a pu se glisser dans le ghetto de Varsovie clandestinement, dans une base de départ des trains de la mort aussi. Et c'est un témoin oculaire extraordinaire qui devient un témoin moral, dites-vous, et qui, en 1943, après être passé par Londres, se rend aux États-Unis où il tente de convaincre tous les interlocuteurs qu'il peut rencontrer. Ainsi, un juge juif de la Cour suprême, Frankfurter, très proche par ailleurs du président Roosevelt.
Justice Frankfurter. He sits.
Le juge Frankfurter est assis. Il me regarde calmement.
And tells me the following.
Puis il me dit ceci.
Young man.
Jeune homme.
As I mentioned.
Comme je vous l'ai dit, on m'a informé de vos activités. On m'a rapporté que vous reveniez de l'enfer. Et on m'a dit que vous alliez y retourner. J'admire les hommes comme vous. Il se lève. Jeune homme. Je ne suis plus tout jeune.
I am judge of men.
Je suis un juge des hommes.
man like me,
un homme comme moi,
a man like you,
devant un homme comme vous,
must be totally honest,
doit être totalement honnête.
And I am telling you,
et je vous dis,
I do not believe you.
Je ne vous crois pas.
My mind, my heart,
mon esprit, mon cœur,
they are made in such a way that I cannot accept.
Sont faits de telle manière que je ne peux l'accepter.
No, no, no.
Le juge, 3 ans après, pas plus que le boulanger orthodoxe de Dubno, ne peut y croire. Roosevelt, que Karski rencontre, que Lemkin a aussi approché. Il sait, mais il doit tenir compte de tant et tant d'éléments, et notamment du déni de l'opinion publique américaine.
On est là dans quelque chose qui est le cœur de la réflexion de mon livre, en fait. On voit très bien, par tout ce qu'apportaient les courriers, et Karski le premier, que les informations passaient très tôt, dès la fin 41, mais surtout en 1942, il y avait des mémos sur le bureau de Churchill et celui de Roosevelt en permanence. Et Frankfurter était l'ami de Roosevelt. Il savait tout, mais ce n'est pas parce qu'il l'avait lu qu'il le savait. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin du témoin oculaire, qui lui, en plus d'apporter des textes, avait vu. Et malheureusement, on ne peut pas le croire, parce que l'idée qu'on extermine systématiquement tous les Juifs à l'intérieur d'une guerre qui est déjà terrible, où les Polonais, par exemple, non-juifs, souffrent atrocement, on ne peut pas croire qu'il y a un autre niveau. Et c'est là que je m'interroge. Ça s'est déjà passé. Pendant l'horrible Première Guerre mondiale, on a exterminé les Arméniens. Pourquoi on ne peut pas le croire?
Et puis, vous avez consacré plus d'un livre à ce sujet. On a, le « on », pronom insolent, désigne peut-être les Allemands, persécutés, enfermés, des populations importantes dans le nord de la France, en Belgique. Et on a cru, après la Première Guerre, que c'était un bobard, que c'était de la propagande alliée. Et un doute s'est insinué qu'on retrouve pendant cette année 43 aux États-Unis.
Ce doute est très très fort, non seulement en 43, mais même pratiquement jusqu'à la fin 44. Il n'y a qu'en 45 que tout d'un coup on découvre. Et en effet, ce n'est pas tant l'occupation qui était un bobard, c'était les rumeurs d'atrocités particulières. En particulier, on pensait que les Allemands avaient coupé les mains des enfants.
Je parle bien de 14. Alors.
Oui, oui, on est bien en 14. On est bien en 14. Et donc, on a, d'une certaine façon, jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en effet, il y avait des rumeurs, et ce n'était pas vrai, mais du coup, on a cru que toutes les atrocités de l'occupation et même l'extermination des Arméniens, on a pensé qu'il y avait peut-être eu des petites choses, mais que tout ça était bien exagéré. Et même le chef du renseignement britannique dit à Jan Karski, qui vient lui apprendre tout cela sur les Juifs, il lui dit « Bravo, vous êtes formidable.
Pas mal, votre
vous
propagande.
Faites encore mieux que nous pendant la Première Guerre. Vous avez inventé tout ça. »
En 1943, Lemkin rédige un maître-livre qui va paraître en 1944. Maître-livre, mais livre curieux aussi parce que il vise à la fois à exposer la nature et les actes du régime nazi et dans son chapitre 9, qui est devenu fameux, à définir le concept normatif du génocide, lequel n'apparaît pas après la guerre à l'automne 45 dans les attendus de l'acte d'accusation du procès de Nuremberg.
Les États-Unis d'Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques accusent par les présentes, pour les motifs exposés ci-après, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley de s'être rendu coupable de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, défini dans le statut du tribunal, ainsi que d'un plan concerté ou complot en vue de commettre ces crimes.
Et alors, il s'est insinué dans l'équipe du procureur américain Jackson, mais
c'est un autre juriste, Lauterbach, qui est beaucoup plus influent, qui insiste, lui, sur l'idée de crime contre l'humanité. Et le mot génocide, s'il apparaît à tel ou tel moment, dans tel repli des textes de Nuremberg, est loin d'être dominant.
Tout à fait. Lemkin à Nuremberg est vu comme quelqu'un qui a une grande connaissance de l'Allemagne nazie. Il est intéressant pour ça. Mais le fait qu'il soit un grand juriste qui apporte un concept nouveau n'est pas du tout pensé à Nuremberg. Au contraire, on le trouve très, très casse-pied pour dire les choses comme le pensent ses collègues. Et c'est Lauterbach qui, depuis très longtemps, qui lui est... a fait ses études dans la même université, ce qui est incroyable, à Wolf, mais qui a émigré au Royaume-Uni, où il est devenu un très grand juriste à Cambridge. C'est un homme de l'appareil intellectuel, je dirais, qui réussit à l'emporter au nom des droits de l'homme, donc aux droits de l'humanité. Et le concept de crime contre l'humanité est celui qui est retenu pour Nuremberg.
Alors vous parlez
donc
de la déclaration.
C'est une nouveauté.
Vous parlez de la déclaration des droits de l'homme et de la nouveauté qu'introduit Lemkin quand, en 1948, il devient l'acteur numéro un d'une convention qui se tient à Paris pour la punition et la définition du génocide. Déclaration des droits de l'homme. Lemkin, c'est quand même un individu que vous montrez plein de contradictions ou étranges. La déclaration des droits de l'homme, le point de départ que serait la liberté individuelle, c'est pas son chemin.
Non, c'est pas son chemin. C'est un homme du collectif, c'est un homme du groupe. Et le problème est d'arriver à définir ce groupe. Est-ce que le groupe est religieux? Est-ce que le groupe est social? Est-ce que le groupe est politique? Est-ce que le groupe est national? Et c'est là-dedans que de temps en temps, peut-on le dire comme ça pour ce grand monsieur, il patauge un peu. On le voit dans le fameux chapitre 8 de son livre principal. Dans ce chapitre 8, il parle surtout des Juifs, puisqu'on est dans l'époque contemporaine, en 1943. Mais il parle aussi des Polonais non-juifs, qui peuvent, après le chapitre 8, dire qu'ils subissent un génocide.
Il patauge un peu, dites-vous, alors, sa notion... quand elle est rétrospective du génocide, est aussi extrêmement extensive. Voici un témoignage de lui, reçu par la radio-télévision française, peu après la Convention de 48.
À ce que c'est le passé, le cas le plus connu, l'extrémisme de Carthage, l'extermination des Albigeois, le massacre des chrétiens dans l'Empire ottoman, les atrocités contre les Hereros en Afrique, l'anéantissement de Maronite, et dernièrement dans la destruction des Israélites sous Hitler. Et je veux bien noter que actuellement le Conseil de sécurité a examiné une plainte du Pakistan contre les Indes, l'accusation comportant la destruction de plus d'un million de musulmans.
Mais aujourd'hui, quand on parle classiquement du génocide, la définition est moins extensive.
Il était tellement obsédé par le fait que le génocide était une invention extraordinaire qu'il voulait qu'il soit partout. Et à la fin de sa vie, il s'est mis à écrire une encyclopédie des génocides qui allait dans tous les espaces et dans tous les temps. Il remontait pratiquement jusqu'à l'Antiquité et il voyait des génocides partout. Ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire et qu'on retrouve dans toute son œuvre, c'est qu'il a une vision, il faut sauver l'humanité. Il a une vision très souvent chrétienne des choses. Il parle par exemple des catholiques au Japon, il parle des huguenots. Et donc, pour lui, c'est avant tout contre un peuple et c'est ce qui a été retenu dans la définition officielle de 48. Mais en même temps, il a une vision qui reste extrêmement religieuse. Et peut-être qu'aujourd'hui, et même certainement, il appellerait ce qui se passe en Birmanie contre les Rohingyas à un génocide.
Merci à vous, Annette Becker, messager du désastre, qui, je le répète, lie au destin de Lemkin, celui de Jan Karski, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Fayard. Est-ce que j'ai dit que nous étions à Strasbourg vendredi, Festival Historia?
Oui, tout à fait.
Vous avez retenu l'endroit, l'auditorium Schweitzer, et c'est au Palais des Congrès de Strasbourg. L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille, avec Antoine Gomez à la technique, Ilinka Negulesco à la préparation.